Un air d'actu avec Serge Carrel.
Permettre à chacune et à chacun d'accéder à une éducation gratuite de qualité, voici le quatrième des objectifs de développement durable proposés par l'ONU et à réaliser d'ici 2030 sur la planète. En lien avec Stop Pauvreté, la campagne de sensibilisation des ONG évangéliques suisses, nous voulons évoquer cette ODD, comme on dit, qui a trait à l'éducation. Notre ONG invité aujourd'hui, Morija, qui a son siège au Bouvray, dans le Valais romand. Benjamin Gasse, bienvenue. Vous êtes le directeur de Morija, une ONG fondée par Michel et Christiane Rabou en 1979 ou 79. L'éducation est au cœur de votre engagement, notamment avec deux pays, le Tchad et le Burkina Faso. Alors expliquez-nous, Benjamin, concrètement, comment est-ce que ça se passe, cet engagement du côté du Tchad et du côté du Burkina Faso.
Bonjour Serge, merci de m'accueillir. L'enfance d'abord, puis l'éducation ensuite sont au cœur de l'engagement de Morija. Comme vous l'avez noté, monsieur et madame Rabou ont créé Morija en 1979 et ils le font avec la volonté et la vision de venir en aide aux populations les plus démunies des deux pays que vous venez de citer, le Burkina et le Tchad.
Et à l'origine, concrètement, vous étiez plutôt orienté vers le fait de creuser des puits.
Oui, alors initialement, c'est vrai que l'accès à l'eau potable et puis la récupération nutritionnelle d'enfants malnutris ont été vraiment les deux axes d'intervention des fondateurs. Mais on sait que dans des contextes et des environnements fragiles, les enfants sont les plus vulnérables et malheureusement souvent aussi au rang des premières victimes. Et c'est donc naturellement que les enfants ont été la priorité de l'association.
Et donc, j'imagine, rapidement est venu se greffer là-dessus le besoin de scolarisation.
Alors, au départ, on avait plutôt des projets de type enfance. Donc, je dirais avec du soutien à des orphelinats, notamment. Et puis, rapidement, sont venus se greffer des projets plutôt de formation professionnelle et des projets éducatifs avec donc le soutien à des écoles.
Alors Benjamin Gasse, vous n'êtes pas seul pour évoquer cet objectif de développement durable numéro 4 sur l'éducation, mais Jérôme Préquel vous accompagne. Jérôme, vous êtes le directeur de la communication de Morija. Alors qu'est-ce qui motive votre ONG à s'impliquer très largement dans ces perspectives aujourd'hui d'éducation?
Alors c'est vrai que vous connaissez certainement l'inusable citation de Nelson Mandela qui disait que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Et c'est vrai, l'éducation s'est reconnue comme étant le puissant moteur de développement et un des meilleurs instruments de réduction de la pauvreté. Alors, toutes les analyses le démontrent, un défaut d'accès à l'éducation condamne, réduit à la pauvreté et pousse en général les populations dans une logique souvent de délinquance, de mendicité et même migratoire, en fait. Donc, lorsque les pays du Nord soutiennent et appuient l'éducation au Sud, on peut considérer qu'ils investissent concrètement dans un équilibre économique et même politique.
Est-ce que vous avez aujourd'hui, soit Benjamin Gasse, soit Jérôme Préquel, une idée un peu du nombre d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école aujourd'hui sur la planète? Il y a des chiffres là autour?
Oui, il y a des chiffres qui existent, alors qui sont des chiffres assez macro, donc il faut aussi les prendre avec des pincettes parce que c'est pas évident d'agréger toutes ces statistiques. Ce qu'on peut dire par rapport à ces objectifs du développement durable, c'est que nous sommes aujourd'hui à un tiers du chemin qui nous conduit à 2030, date à laquelle tous les enfants de la planète devraient être scolarisés. Et si on regarde ces chiffres, on voit qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Vous auriez un chiffre concret, combien de...
Oui, un chiffre, environ 258 millions d'enfants n'iront pas à l'école aujourd'hui. Et si on prend l'exemple du Burkina Faso, qui est le pays qui nous intéresse au niveau de Morija avec le Tchad, sur les 9 millions d'enfants qui sont en âge d'être scolarisés, 1 million ne vont pas à l'école aujourd'hui.
Est-ce qu'on a aussi une idée au niveau des résultats hein, de cette scolarisation? Combien de jeunes aujourd'hui ne sont pas capables de lire un document simple?
Alors, les chiffres sont encore plus éloquents puisque si on prend les segments des 15 ans et plus, donc on considère des personnes qui devraient avoir terminé un cycle primaire et secondaire et savoir lire et écrire. Aujourd'hui, on considère que 750 millions de personnes sur la planète ne savent ni lire ni écrire. Et c'est qui touche davantage les femmes que les hommes, puisque 17% des femmes dans le monde ne disposent pas de compétences en lecture ou en écriture. Alors, contre 10% contre les hommes. Donc, on voit qu'il y a un écart assez conséquent entre les femmes et les hommes.
Benjamin Gass, avec Morija, donc vous êtes impliqué au Burkina Faso, vous venez de le dire, et notamment au travers d'écoles que vous appelez les écoles arc-en-ciel. Alors, combien d'écoles est-ce que vous gérez via cette dynamique arc-en-ciel?
Alors, aujourd'hui, entre le Burkina Faso et le Tchad, on a plus une dizaine d'écoles, donc le chiffre peut varier en fonction des années, entre 10 et 15, et qui accueillent ensemble environ 5000 élèves.
Et si on prend le Burkina Faso pour être un peu focalisé, quel est le statut de ces écoles? Ce sont des écoles confessionnelles ou ce sont des écoles de l'État?
Alors, en fait, le statut de l'école, c'est-à-dire école publique ou privée, pour être un peu schématique, c'est pas vraiment ce qui oriente notre choix. Notre choix se fait à partir du besoin. Donc, un besoin qui est présent dans une communauté, dans un village, et qui remonte jusqu'à nous. Et là, on décide d'intervenir pour appuyer cette école, qu'elle soit publique ou privée.
Et au niveau des écoles aujourd'hui, on connaît hein, la situation qui se péjore de manière assez importante au Burkina Faso. Quels sont les enjeux pour les écoles afin de continuer à exister, à pouvoir dispenser un minimum d'enseignement aux enfants?
Aujourd'hui, il y a un enjeu sécuritaire qui est important, notamment au Burkina Faso, puisque c'est un pays qui est soumis à une grande insécurité. Et il y a un grand nombre d'écoles qui aujourd'hui, malheureusement, ont été fermées. Environ 2200 écoles ont dû fermer leurs portes, ce qui représente environ 300 000 élèves qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus la possibilité d'être scolarisés.
Et on dit qu'il y a donc beaucoup de réfugiés à l'intérieur du pays. Beaucoup de gens ont quitté le nord pour se réfugier dans des zones plus pacifiées au sud.
Oui. Alors là, il y a peut-être un petit point de sémantique qu'il est important de faire. Donc, on parle souvent de réfugiés lorsqu'il s'agit de personnes qui viennent d'autres pays. Donc, ça serait pour le Burkina des personnes qui viennent du Mali ou du Niger. Et puis, quand on a des mouvements de population au sein même du pays, on parle alors de déplacés internes. Alors, mais on peut considérer en fait que ces déplacés internes qui sont aujourd'hui à peu près 1,4 million de personnes sont des réfugiés au sein de leur propre pays, en fait, et ils doivent quitter leur communauté, tout abandonner, et c'est une nouvelle vie qu'ils doivent recommencer ailleurs, dans une autre région qu'ils ne connaissent pas.
Comment est-ce que vos écoles arc-en-ciel sont confrontées à cette problématique djihadiste, hein, pour faire court?
Alors, à notre niveau, on a vraiment le souci et l'ambition de faire de ces écoles des lieux de réconciliation. Alors, dans la Bible, l'arc-en-ciel apparaît après le déluge où Dieu en fait un signe de réconciliation entre lui et les hommes. Et c'est aussi notre volonté de faire de ces lieux des lieux d'accueil, un cocon, une sorte de deuxième famille qui accueillera chaque enfant, quelle que soit sa confession, quelles que soient ses croyances, et puis d'être aussi des promoteurs de valeurs.
D'un vivre ensemble qui
commence par le vivre ensemble, de cultiver aussi les fruits de l'esprit, la bienveillance, la bonté, la joie, sachant que ces élèves vont passer une bonne partie de la journée dans ces lieux, dans ces écoles, et aussi que quand ils rentreront à la maison, ils pourront aussi être des promoteurs ou véhiculer aussi ces valeurs ou ce qui a été vécu au sein de la journée. Si ça s'est bien passé, ça risque aussi d'avoir un impact positif chez eux, à la maison.
Est-ce que vous avez quelques-unes de ces écoles qui sont installées dans le Nord et qui sont justement en butte aux violences qui ont cours actuellement au Burkina?
Alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'école dans la zone rouge qui est vraiment qui sont des zones inaccessibles et il y aurait vraiment trop d'enjeux sécuritaires et ça mettrait en danger nos équipes. Donc nous, on a quelques partenaires qui sont actifs dans ces régions qu'on appuie. Par contre, l'idée, c'est plutôt de développer, de travailler avec des écoles qui sont à la lisière de ces zones, donc par exemple à Kaya ou un petit peu plus au sud, et puis de travailler avec les déplacés internes. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'aller travailler dans ces zones rouges, dans ces zones très difficiles. Donc on se focalise sur les zones d'accueil qui accueillent les déplacés internes.
Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle d'école, hein, en Europe, en Suisse ou en France, on pense à un enseignement qui est dispensé voilà, le matin et puis l'après-midi avec un peu de sport. Mais finalement, lorsqu'on parle école au Burkina Faso, c'est quelque part beaucoup plus large. Est-ce que vous pourriez, Benjamin Gass, nous expliquer en quoi ces écoles s'inscrivent vraiment dans une perspective qu'on pourrait qualifier d'holistique ?
Alors, peut-être développer un petit peu le concept de l'école arc-en-ciel. Donc, on l'a appelé arc-en-ciel parce que on reprend dans ces écoles nos 6 secteurs d'intervention qui sont caractérisés chez nous par une couleur. On a le jaune pour la sécurité alimentaire, le bleu pour l'accès à l'eau, le rouge pour la santé, le violet pour l'éducation, le vert pour l'agriculture et l'orange pour l'aide humanitaire. Donc l'idée, c'est d'intégrer tous ces secteurs, tous ces enjeux au sein de l'école durant la journée. Donc je vais prendre juste un exemple concret. Si on prend la couleur jaune et l'enjeu de la sécurité alimentaire, ce qu'on constate souvent, c'est que les élèves qui viennent à l'école le ventre vide. Ils sont souvent sous-alimentés parce que leurs parents n'arrivent pas à leur assurer un repas par jour.
Donc là, concrètement, vous proposez chaque jour un repas à ces enfants qui sont scolarisés dans les écoles arc-en-ciel.
Voilà, c'est une mesure qui est simple, mais qui est primordiale, parce qu'on sait que l'insécurité alimentaire a des conséquences sur la santé, le développement physique, intellectuel. Les enseignants constatent aussi souvent des problèmes de concentration. Donc, en assurant un repas équilibré par jour, on travaille sur tous ces aspects et on améliore aussi l'attention de l'élève, son assiduité au niveau de l'école. Puis à côté de ça, on a par exemple le volet agricole. On a décidé de mettre en place des jardins maraîchers dans l'école qui permettent à la fois de produire des légumes biologiques pour la cantine, qui vont alimenter la cantine, qui vont sensibiliser les enfants à des pratiques agricoles durables, agroécologiques. Et puis, on va pouvoir utiliser le jardin comme un terrain d'application pour, par exemple, faire des mathématiques. Donc, je sais pas, on décide de faire un semis de haricots. Donc, on va diviser la zone, le terrain, en sillons, et puis on va calculer le nombre de graines qu'on va pouvoir semer dans ce sillon. Voilà, donc il y a vraiment une approche, en effet, holistique, globale, où tout est lié, où tous les secteurs sont liés, l'accès à l'eau potable.
Oui, j'ai aussi lu à propos d'accès à l'eau potable, en fait, que si certains enfants arrivaient avec une gourde et qu'ils souhaitaient obtenir de l'eau, vous vous engagiez à forer un puits pour que dans le cadre de l'école, ou en tout cas à proximité de l'école, il y ait la possibilité de bénéficier d'eau potable.
Alors, le point d'eau, c'est vraiment l'action prioritaire qu'on réalise quand on appuie, on accompagne une école. Alors on prend souvent l'image d'un tabouret à 3 pieds pour cette thématique-là. Donc il y aurait un pied qui serait l'accès à l'eau, le deuxième qui serait l'accès à l'assainissement et le troisième, la sensibilisation à l'hygiène. On peut pas traiter ce sujet si on n'aborde pas les trois dimensions. Donc dès qu'on intervient dans une école, on traite ces trois dimensions, donc faire un forage, construire des latrines et puis sensibiliser aux bonnes pratiques à l'hygiène. Et là, on rejoint aussi la vision initiale et des fondateurs où l'accès à l'eau potable était vraiment l'activité primordiale qui permet aussi un peu les fondements du développement.
Jérôme Préquel, vous êtes le directeur de la communication à Morija. Votre ONG s'inscrit dans Stop Pauvreté, une campagne de sensibilisation aux questions de justice Nord-Sud d'inspiration évangélique. En quoi est-ce que la Bible vous inspire par rapport à la promotion de l'éducation pour tous ?
Alors, C'est vrai qu'il y a de multiples raisons qui pourraient être invoquées. Je pense qu'on pense que le fait d'aimer son prochain comme soi-même, c'est vouloir le meilleur pour son avenir.
Et donc, en conséquence, c'est souhaiter pour lui la meilleure des éducations possibles.
Exactement. Il n'y a pas d'avenir sans éducation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le répétait tout à l'heure Benjamin, l'éducation fait reculer le fléau de la pauvreté. On pense à Morija, avec d'autres acteurs notamment présents dans cette campagne Stop Pauvreté, que les chrétiens qui sont marqués par l'identité de Christ sont animés par la compassion envers les plus faibles. C'est assez logique. Et l'exemple de Christ, c'est d'aller au-devant de ceux qui ont besoin, pas seulement d'attendre qu'ils viennent à lui. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Morija.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que au cours de l'histoire, hein, les églises protestantes, les églises évangéliques ont été souvent très pointues en matière d'éducation et ont quelque part tenté de promouvoir un système scolaire qui promeuve une éducation de qualité pour tous. Donc, finalement, on pourrait dire que Morija, avec ses écoles arc-en-ciel, avec votre engagement, s'inscrit dans cette dynamique-là.
Complètement. C'est vrai que la logique, comme vous le soulignez tout à l'heure, la logique au nord et au sud, la logique éducative est un peu différente. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs, mais on comprend que cet accès à l'éducation est essentiel. On est plus sur des fondamentaux et sur des choses essentielles en Afrique, par exemple. Et c'est vraiment important de produire cet effort aujourd'hui. On sait par exemple que l'éducation en Afrique sauve des vies carrément. On sait qu'un enfant dont la mère sait lire a 50% de chances de plus de vivre au-delà de 5 ans.
C'est quand même. C'est énorme, hein.
Des chiffres qui font réfléchir. Et il aura également deux fois plus de chances d'être scolarisé, évidemment. L'impact étant encore plus important parmi les filles, pour lesquels l'accès à l'éducation primaire et surtout secondaire va avoir un effet complètement libérateur.
Jérôme, merci beaucoup pour cet ancrage un peu dans l'histoire des églises chrétiennes et notamment des églises protestantes de sensibilité évangélique. Je vous propose d'écouter maintenant un petit peu de musique, puis on vous retrouve après pour poursuivre notre entretien.
Bien plus beau, bien plus costaud. Papa n'a pas vu pousser ni passer ses marmots. Bien plus grand, plus rigolo. Les mamans dépassent papa et papa pas beau. Bien plus fun, plus Nintendo. Papa n'est pas capable de tenir de tour en marque. Bien plus frais, bien plus nouveau. Papa ne capte pas les nouveaux mots des marmots. Ce sont les mêmes que nous, que nous. Ce sont les mêmes en plus heureux. Ce sont les mêmes que nous, que nous. Ce sont les mêmes en mieux, et tant mieux. Plus filou, bien plus filou. Gosse m'agace d'en savoir un peu trop. Plus barjo, bien plus judo. Papa n'a qu'à bien se tenir ou papa qu'à connecté et moi trop rétro. Maman est en bas et papa est largué en argot. Bien plus fin, bien plus chaud. Ils savent déjà que ça fait pas mal les bobos. Ce sont les mêmes que nous, que nous. Ce sont les mêmes en plus heureux.
Et tant mieux.
Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande. Aujourd'hui, nous parlons des objectifs de développement durable avec l'ONG Morija, et notamment de l'objectif numéro 4, une éducation de qualité pour tous. Alors Benjamin Gass, Morija est non seulement impliqué dans la valorisation de l'éducation pour tous au Burkina Faso, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi au Tchad. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au Tchad en matière d'éducation ?
Alors, en fait, nos projets éducatifs dans l'histoire de Morija ont vraiment pris une autre dimension à partir de 1992, avec un programme éducatif au Tchad voulu par Monsieur Rabou. Et c'est assez intéressant de venir un petit peu en arrière et de retracer l'historique. Donc, Monsieur Rabou a eu la vision d'un vaste programme de développement pour appuyer 63 villages isolés du sud du Tchad. Et souvent, dans ces villages, il n'y avait pas d'école publique. Donc, l'État n'avait pas réussi à descendre jusque-là et à installer et à construire des écoles. Donc, ce qui se passait, c'est que les parents identifiaient la personne la plus éduquée de la communauté et, moyennant une petite contribution, lui demandaient de faire classe à leurs enfants. Et c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, et encore aujourd'hui, une école communautaire qui est, en fait, prise en charge par la communauté et par les familles.
Donc concrètement, Morija, vous êtes venu avec Morija en appui à ces écoles communautaires. Vous avez quelque part fourni un peu du matériel scolaire, une qualité de classe et de bâtiments qui permettent de faire école.
Alors nous, on est venu en appui, en accompagnement. Ce qui nous a beaucoup plu et ce qui nous plaît encore d'ailleurs, c'est cette volonté initiale des parents qui se responsabilisent et qui n'attendent pas, qui sont pas forcément dans la plainte en se disant mais voilà qu'est-ce que fait l'État. Non, ils sont plutôt là en se disant ben voilà l'État ne fait rien, on n'a pas la capacité d'intervenir et nous on veut se mobiliser. Ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant. Donc mon projet est venu en appui à ces écoles en permettant d'une part aux enseignants d'être formés. Donc il y a tout un cursus et de formation des enseignants au niveau de la didactique et de la pédagogie. Et puis d'autre part, un appui avec la construction d'écoles en dur, de bâtiments, et puis équipés avec du mobilier, des livres, des cahiers.
Benjamin Gass, vous êtes enseignant hein, de formation vous-même. Lorsque vous êtes rendu sur place, quelles ont été les choses marquantes que vous avez vues ?
Ouais, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, c'est un projet qui me parle particulièrement. Je suis également papa de trois enfants scolarisés dans le village, dans notre village. Et en fait, quand on se penche sur cette question, c'est juste un privilège incroyable de pouvoir confier nos enfants à l'école, aux enseignants en toute confiance, les amener le matin, les récupérer le soir, et puis voir comment ils progressent jour après jour. Voilà, c'est juste incroyable, mais ça paraît tout simple. Et lorsque je me rends au Tchad et que je visite ces écoles communautaires, moi, je prends vraiment conscience de ce privilège et je constate que là-bas, rien n'est simple. Rien n'est simple. On est souvent en admiration devant ces enfants qui parcourent 5 km à pied le matin pour venir à l'école et 5 km le soir pour rentrer à la maison avec des tongs usés qu'ils appellent souvent des tapettes. Voilà, des tongs aux pieds, et puis pourtant ils sont enthousiastes, ils sont fiers de réciter une table de multiplication ou un poème, et ça je trouve que voilà, c'est aussi ce qui motive notre engagement. Et je dis souvent à mes enfants, alors pas pour les culpabiliser, mais que ces élèves, ces jeunes élèves du Tchad auraient beaucoup à leur apprendre sur la valeur des choses et sur la valeur de l'éducation, alors que parfois ils traînent les pieds, eux, pour aller à l'école.
Jérôme Précol, si quelqu'un était intéressé à soutenir Morija ou à s'impliquer dans le cadre de votre engagement, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, on a vraiment une offre extrêmement vaste d'implication pour les personnes qui sont intéressées. On peut envoyer directement sur notre site internet qui est assez complet.
Donc, on peut juste donner voilà, son nom. Donc, c'est www.morija.org.
Tout à fait. Et vous verrez que là, il y a un travail de présentation et de déclinaison qui est assez complet. qui va évidemment appeler un contact plus précis et plus personnel. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On accueille très régulièrement des personnes à notre siège du Bouvray qui viennent visiter et prendre un peu la mesure de ce qui est possible de faire en termes de bénévolat ou de soutien à distance.
Vous proposez quelque chose d'original, vous appelez ça chocolat solidaire. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Alors, c'est très simple. Un établissement scolaire décide d'entrer en matière et de soutenir, par exemple, au sud, un autre établissement scolaire. En général, la sélection qui est faite, ce sont des établissements qui sont éligibles justement à devenir des écoles arc-en-ciel, c'est-à-dire qui sont démunis de tout, qui n'ont pas d'eau, pas de toilettes, pas d'électricité, peut-être pas d'infrastructure. Et donc, l'établissement scolaire se voit fournir par Morija, grâce à notre partenariat avec Cahier, du chocolat dans des petites boîtes qui sont distribuées dans l'entourage en échange d'un don.
Donc là, vous êtes même en relation avec un chocolatier helvétique qui, quelque part, participe ou promeut votre action chocolat solidaire.
Tout à fait. Pour nous, c'est une opportunité formidable de pouvoir bénéficier de cet appui. Et ça nous permet, ça nous a permis et ça va nous permettre encore de financer des établissements qui sont complètement démunis.
Alors, Benjamin Gass, vous êtes le directeur de Morija. Qu'est-ce qui, sur le fond, vous motive? Qu'est-ce qui vous incite, quelque part, à vous impliquer dans la vie et dans l'animation de cette ONG?
Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis enseignant de formation. Et puis, j'ai toujours eu cette envie aussi d'aller aider mon prochain plus au sud, connaissant leurs conditions qui sont pas évidentes. Voilà, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je travaille à Morija, et je peux vous dire que chaque jour c'est une nouvelle aventure, quoi. C'est juste incroyable de pouvoir se mobiliser, d'essayer de mettre à disposition ses compétences pour accompagner des communautés vers le changement, vers l'amélioration des conditions de vie. Alors, moi, ce qui me motive particulièrement, et ça correspond bien aussi à la philosophie, à l'approche de Morija, c'est d'être très précis, de travailler avec les communautés, donc de partir des besoins d'une communauté et de construire ensemble le projet. Donc, on a vraiment ce souci de ne pas créer de la dépendance, mais vraiment de créer de l'autonomie. Et pour moi, alors souvent ça se fait ça se fait pas en un jour, ça prend 3-4 ans. Mais ce qui me motive, c'est la démarche de cheminer ensemble avec les communautés, de construire les projets, de les voir se mobiliser, et puis de voir que ensemble on arrive à porter du fruit et aussi à améliorer des situations qui sont très difficiles.
Benjamin Gass et Jérôme Préquel, merci d'être venus évoquer l'objectif de développement durable numéro 4 qui vise d'ici 2030 à assurer une bonne éducation pour tous. Je rappelle, Benjamin, que vous êtes le directeur de l'ONG Morija et que Jérôme, vous en êtes le directeur de la communication. Un petit rappel, si quelqu'un souhaitait avancer ou découvrir davantage de choses en lien avec votre ONG, il y a un site internet www.morija.org. Voilà, bonne suite de journée à vous.
Merci à vous.
Merci Serge.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à commander la brochure God's Global Goals. Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Excellente suite de journée à vous. Au revoir et à bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.